Je voudrais que nous nous arrêtions un peu sur Claudel adolescent et sur le drame qui animait ce garçon de 15-16 ans, dont nous avons le sentiment qu'il vivait dans un très grand isolement et qu'il se sentait séparé. Séparé de quoi ? Toute votre œuvre le dira par la suite, mais si vous voulez bien, peut-être pourrez-vous essayer de vous rappeler l'état d'esprit, l'état d'âme dans lequel vivait celui que vous avez appelé vous-même le sourd et le muet du lycée Louis-le-Grand.
Eh bien, mon Dieu, faut pas oublier que j'ai 82 ans aujourd'hui, qu'il y a par conséquent un laps assez long qui me sépare de cette période dont vous parlez. Et je ne suis pas sûr que cette longue distance ne colore pas les souvenirs que je puis avoir aujourd'hui. Quand on se revoit à travers un laps de 60 ou 70 ans, on a chance que le point de vue déforme un peu son objet. Mais enfin, autant que je me rappelle, je dois dire que la cause en grande partie de mon dépaysement était celui matériel qui a accompagné mon transfert d'une petite ville de province où je me trouvais en somme parfaitement heureux avec ma famille à Paris où l'ambiance était complètement différente. J'ai eu à m'y adapter et cette adaptation qui n'a jamais été complète a été très douloureuse. Je n'ai jamais eu l'instinct d'agrégation à une équipe. Il m'a toujours été très difficile de m'y accommoder. À aucun moment de ma vie, il m'a été possible de sentir ce sentiment qu'on appelle la camaraderie. C'est un point de vue que j'ai d'analogue avec Rimbaud quand il dit la camaraderie et la société des femmes étaient interdits. C'est un point par lequel je lui ressemble beaucoup. Je sentais en moi probablement le travail, la fermentation d'un être nouveau qui avait énormément à apprendre et qui n'était pas encore abouché aux sources vraiment nutritives dans lesquelles il trouvait une alimentation pour son développement. Alors, j'étais à tâtons surtout que, comme je vous le dis, je n'avais aucun sentiment religieux, bien que, ayant tout à fait le tempérament adapté à la nouvelle vie que j'ai trouvée plus tard. Alors, il en résultait un état de gêne, un état de déséquilibre, un état de recherche infiniment désagréable et pénible. D'autre part, dans ma famille, l'accord ne régnait pas toujours. Nous avions chacun des tempéraments très violents et la vie de famille n'avait rien de spécialement agréable, de sorte que mes souvenirs les plus anciens, j'ai toujours eu en moi cette envie de m'en aller, de quitter mon milieu et de courir le monde. Ça a toujours été un de mes instincts les plus fondamentaux. J'alimentais ça par la lecture d'un journal qui paraissait à cette époque-là, qu'on appelait le Tour du Monde. Je passais des journées entières à lire des récits de voyage en Chine et dans l'Amérique du Sud. C'était les deux pays qui avaient mes préférences et que j'ai retrouvés plus tard dans ma carrière diplomatique.
Eh bien, ce jeune Claudel dont vous parlez, si vous permettez, voici comment nous le voyons, nous, un peu de l'extérieur, d'après le témoignage de deux écrits que vous n'aimez sans doute plus beaucoup. L'un est cette petite pièce intitulée « L'endormi », écrite, je crois, entre 1882 et 1883, vous aviez donc une quinzaine d'années, et
oui,
puis
à peu près.
Ce fragment d'un drame qui est daté de quelques années plus tard. Déjà, dans « L'endormi » et dans ce fragment d'un drame, nous vous voyons vous-même comme le siège d'un drame extrêmement dur, d'une division entre deux personnages opposés. L'un qui est tout donné, passif, qui semble fait pour subir et pour accepter, l'autre qui est toute révolte, conquête, sauvage possession. Et il semble bien que lorsque vous avez rencontré Rimbaud, vous avez rencontré non pas un maître, mais un frère.
Plutôt qu'un frère, il serait plus juste de dire un père, en autant à ce sens, ce mot, le sens vénérable et respectueux qui comporte. Je veux dire, comme je l'ai dit d'ailleurs, que Rimbaud a exercé sur moi une influence séminale. Et je ne vois pas ce que j'aurais pu être si la rencontre de Rimbaud ne m'avait pas donné une impulsion absolument essentielle. Maintenant, puisque vous parlez de ces deux pièces, un peu oubliées de ma part, toutes les deux répondent à des stades très différents de mon développement. L'endormi est encore une pièce d'enfant, bien qu'on y trouve des éléments qui, en somme, font partie de mon répertoire, à ce point que le sujet de l'endormi, on le retrouve plus tard dans mon drame satirique appelé Protée, et enfin dans une œuvre la plus récente que j'ai écrite, j'appelle ça une extravaganza radiophonique, que j'ai écrite il y a 2 ans et qui en somme part du même sujet que l'endormi, qui s'appelle « La lune à la recherche de son endroit ». Parce que vous savez que la lune ne nous montre que son endroit et son envers nous est irrémédiablement caché. Alors je suppose que la lune est inquiète, somme toute. Elle se dit « j'ai un envers, je le sais, mais quel est donc cet envers ?» Et alors c'est cet envers qui est à la recherche de son endroit, puisque le mot « endroit » comporte pour ainsi dire son opposé qui est l'envers. Alors c'est là-dessus, sur cette idée, que j'ai refait cette pièce de l'endormi et que j'en ai fait cette extravaganza radiophonique qui est apparue dans les cahiers de la Pléiade de Paulhan il
oui,
y a 2 ans.
Il y a bien cette extravagance, il y a cette bouffonnerie allègre, cette abondance, la truculence du vocabulaire, une sorte de matière verbale épaisse, savoureuse dans l'endormi. Il y a aussi la présence de la lune qu'on retrouve dans la plupart de vos livres. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose de plus profond et quelque chose qu'on pourrait considérer comme l'un des thèmes centraux de votre œuvre, c'est-à-dire la recherche de l'orientation, la situation du poète dans le monde et par rapport au monde. Ce que vous direz à bien des reprises plus tard. Et dans l'endormi, le personnage central, c'est bien le poète, c'est bien vous-même, le poète qui est d'ailleurs mystifié, bien sûr, puisque la belle endormie qu'il va essayer de réveiller se révèle une sorte d'horrible monstre, une espèce de sac à vin, comme vous l'appelez d'ailleurs, dans la pièce. Mais déjà, on voit bien ce poète qui est préoccupé d'orientation, qui est préoccupé de s'établir dans le monde, et plus tard, dans Connaissance de l'Est, vous écrirez ceci. Il pleut à Londres, il neige sur la Poméranie, pendant que le Paraguay n'est que rose, pendant que Melbourne grille. Eh bien, cette petite phrase, ce vers, à certains égards, c'est tout vous-même, il porte votre marque. Il y a cette préoccupation constante d'affirmer la présence de la totalité de l'univers, et par rapport à cette totalité, la situation exacte du poète et des choses qui coexistent ensemble.
Tout ça est très ingénieux et je vous écoute avec le plus grand intérêt parce que ça développe en effet un côté tout à fait plausible de cette œuvre pour laquelle j'avoue que je n'ai pas gardé une direction particulière. Mais enfin, je n'ai qu'à me ranger à votre point de vue et à m'applaudir de l'intérêt que vous y trouvez, n'est-ce pas ?
Mais je ne pense pas que ce soit l'intérêt que j'y trouve seul. Je crois que tous vos lecteurs y trouvent cet intérêt. Mais si vous voulez bien maintenant...
Mais je voudrais ajouter quelque chose. Pour moi, l'intérêt principal je trouve à l'endormi, c'est que dans l'édition qu'on a faite, le libraire suisse qui l'a livré au public, il y a un portrait de moi au crayon par un de mes camarades de classe appelé Gabriel de Roton, qui m'a fait mon portrait justement au moment où j'écrivais l'endormi à peu près. Et alors on me voit, c'est le plus ancien portrait qui existe de moi justement.
Mais je regrette beaucoup
vous
que...
Vous ne le connaissez pas.
Je ne le connais pas. Je regrette beaucoup que mon ami Richard Haid, qui est le libraire dont vous parlez, ne m'ait pas montré ce portrait. Ouais. J'aurais été très curieux de
demandez-le
le voir.
Demandez-le-lui.
Je n'y manquerai pas.
Il paraît que j'étais un jeune garçon rose et joufflu à cette époque-là.
Oui. Eh bien, voulez-vous maintenant... peut-être nous parler des conditions concrètes dans lesquelles vous avez fait la rencontre de Rimbaud.
Oh, c'est au mois de mai 86 au Luxembourg. Je venais d'acheter la livraison de la Vogue où paraissait la première série des Illuminations. Et je ne peux pas l'appeler autrement qu'une véritable illumination. Ma vie a été complètement changée par ces quelques fragments paru dans cette petite revue, La Vogue, dirigée par Fénéon, je crois, à ce moment-là, et qui ont complètement ébranlé le système philosophique absurde et rigide auquel j'essayais de me plier à ce moment-là. Là, les illuminations m'ont révélé, pour ainsi dire, le surnaturel qui est l'accompagnement continuel du naturel. Après le déluge, enfance, enfin, toutes ces pièces qui ont paru dans le sixième numéro, je crois, de la Vogue, et ensuite dans les numéros suivants, étaient pour moi une véritable révélation. Et quelques mois plus tard, révélation plus importante encore,
la saison en enfer
est apparue en octobre. Tout ça a été pour moi un événement considérable et qui explique peut-être que dans l'intervalle des deux, j'ai écrit une pièce de caractère déjà, en somme, catholique et religieux, qui paraîtra dans mes œuvres complètes, qui est encore inédite, ce que je crois. Œuvre très médiocre à un point de vue formel, mais qui, au point de vue de mon développement moral et religieux, a de l'importance. Ça s'appelle...
Une mort prématurée?
Non,
ce n'est pas ça.
Pour la messe des hommes, ça s'appelle. C'est écrit en juillet 86, justement.
Par conséquent, antérieur à cette mort prématurée
dont
on a détaché ce fragment
bien
d'un drap.
Antérieur, parce qu'une mort prématurée date d'après ma conversion. Ça date de 2 ans après ma conversion, de 1888.
Oui, c'est bien cela. Eh bien, je voudrais m'arrêter un petit peu à votre découverte de Rimbaud. Il me semble qu'il y avait une profonde ressemblance entre Rimbaud, que vous venez de découvrir, et vous-même, en tout cas, le fragment d'un drame, si l'on prend quelques citations très courtes, le montre très bien. Il y a d'abord un jugement sur le monde, qui est un jugement tout à fait brutal, ce monde considéré comme abject. Et c'est l'un des personnages de votre fragment d'un drame, Marie, qui porte ce jugement, qui sera d'ailleurs plus tard développé et renforcé dans Tête d'or. Elle dit « Ami, au lieu, ô horreur de ce monde pervers. » Et puis, corrélativement à ce jugement porté sur un monde abject, un désespoir à peu près radical. C'est toujours le même personnage qui dit « Mais il y a une chose meilleure que tout, c'est de dormir dans le sommeil du sang et de la mort. »
Ce fragment d'un drame est issu d'une atmosphère fort différente de celle dont nous parlions à propos de l'endormi. À ce moment-là, j'avais déjà derrière moi, non seulement ma conversion, mais 2 ans de fréquentation avec la vie liturgique catholique. Et ce désespoir dont vous parlez serait plutôt interprété comme un coup d'œil jeté au milieu d'un travail d'adaptation excessivement difficile, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on apprend à faire une place à des éléments aussi difficile à intégrer et aussi séparé de nous que la vérité catholique qui est effroyablement difficile à intégrer dans notre vie laïque, dans notre vie ordinaire. Surtout pour moi qui en avais un sentiment très intense. Et ce désespoir dont vous parlez exprime plutôt, non pas une idée d'abandon, mais une idée de lutte, comme celle qu'exprime Rimbaud quand il dit « Le combat spirituel est aussi dur que la bataille d'hommes, dure nuit, le sang séché, fume, furme, passe, etc. »
Ah oui, mais ce n'est qu'une partie de vous-même.
Mais
qui...
d'abandon et de désespoir, je ne me rappelle pas que j'en ai jamais connu un point de vue absolu. Il y a abandon et désespoir dans le sens de quelqu'un qui se trouve à côté d'une paroi presque à pic et qui se dit « Jamais je n'arriverai à venir au bout » et qui est en même temps excité et déprimé.
Oui, mais aussi bien d'ailleurs ce désespoir, je ne l'appliquais pas, si j'ose dire, à la totalité de vous-même, mais seulement à une partie de vous-même.
À ce point de vue, c'est exact.
Oui, car il y a l'autre partie, celui dont, que vous qualifiez, en pensant à Rimbaud d'ailleurs, de mal tout pur. Ouais. Il y a cette espèce de pur sang, sauvage, avec son trop-plein de force, ce conquérant qui deviendra
tout ça est dans le morceau d'un drame,
Tout ça est dans le fragment d'un drame, car précisément l'héroïne, Marie, lui demande à votre héros que vous appelez Henri. Ça n'est pas un nom très poétique, il est beaucoup moins poétique que Tête d'or, le nom de ce personnage qui est une sorte
c'était
de préfiguration.
C'était pour rimer avec Marie.
Ah, c'est pour cela. Ouais. Eh bien, Marie lui dit, j'accepte et je me réclamerai d'un droit sur toi, d'un rang sur la mort. Elle est donc celle qui accepte. Mais lui répond, ce n'est pas ainsi que je dirai. Il refuse d'accepter. Je t'ai vu et je t'ai choisi. C'est moi qui, me jetant sur toi, t'ai prise comme un loup qui charge son ouaille sur son dos. Et au moment où elle lui demande en quelque sorte le suprême accomplissement de leur amour dans la mort, il se détourne d'elle, il ne veut même pas l'embrasser. Et il lui dit adieu de cette façon. Adieu, c'est ainsi que nous nous quittons, moi pour ne plus revenir et toi. Par quelle route longue, pénible, souterraine nous faudra-t-il marcher? Sur quelle borne, de quel chemin te retrouverai-je assise? Souviens-toi, souviens-toi du signe. Et il s'en va.
Eh bien, dans ces derniers mots, vous devez reconnaître une citation presque textuelle de Partard de Milly. Ce morceau d'un drame est en somme le premier état de Partard de Milly que j'ai connu avant les expériences qui en sont la source directe. C'est ce qui prouve le caractère extrêmement mystérieux de l'inspiration poétique, puisque entièrement aux expériences redoutables que j'ai vécues plus tard, je les décrivais d'avance avant de les avoir subies.
Et c'est bien ce que je voulais marquer.
C'est le partage de Milly en germe. Toute la scène finale de partage de Milly est en germe dans cette citation que vous venez de me faire.
Eh bien, je suis heureux de vous le faire dire, enfin, de vous provoquer à le dire, puisque tout à l'heure, en commençant, vous portiez un jugement extrêmement sévère sur ces deux petits écrits de votre toute prime jeunesse. Et vous voyez bien que je n'avais peut-être pas tort.
Ah, il faut distinguer le second morceau d'un drame ou l'endormi. L'endormi est en effet une œuvre enfantine. Morceau d'un drame est au contraire le premier réveil de ce que j'appelle ma puberté intellectuelle. C'est à ce moment-là que réellement je me suis dit, vraiment j'ai des moyens. Enfin, il y a la première fermentation vraiment de, oh mon Dieu, on peut bien appeler ça génie, n'est-ce pas, dont j'ai pris conscience à ce moment-là et qui plus tard alors a pris forme dans Tête d'or.
Nous en étions restés d'une part au désespoir, d'autre part à cet instinct, à cette volonté de révolte, d'affirmation, de conquête et à cette vocation de fuite, de départ, cependant qu'une part de vous-même, une part du poète, la part que nous pourrons appeler provisoirement féminine, demeure attachée au pays natal, elle est là, elle est assise, sur quelle borne on ne sait où, mais elle ne prend pas la route avec le poète qui s'en va seul. Il y a donc l'appel, la vocation, en même temps que le refus et la fuite, et c'est dans cet appel et dans cette vocation que gît le salut possible.
Tout ça est très bien, et on retrouve en effet cette division des deux éléments dont vous parlez, on le retrouve dans Tête d'or, entre Cébès et Tête d'or, par exemple.
Oui.
Vous retrouvez ce même élément plus tard dans d'autres conceptions que j'ai eues, par exemple Animus et Anima. Un poète ne fait guère que développer un dessin préétabli.
Eh bien, c'est...
De là ce côté de mystérieux, prophétique, si on peut dire, qu'il y a dans la vie d'un poète. Un des meilleurs exemples est Baudelaire, qui encore au lycée prévoyait toute sa vie future et écrivait ses vers étranges. Tous les êtres aimés sont des vases de fiel qu'on voit les yeux fermés. Il écrivait ça étant en rhétorique à 17 ans, hein, oui. Il n'avait certainement jamais bu de vase de fiel à ce moment-là, mais il avait déjà l'expérience de son avenir. Et de même dans Verlaine, quand il dit « Mon âme vers d'affreux naufrages appareil » avant qu'il ait eu cette vie mouvementée que tout le monde connaît.
Oui, mais c'est d'ailleurs pour cela que je voulais insister un peu sur ses premiers écrits, de manière à mieux nous assurer d'un départ pour explorer une œuvre future si importante, si abondante et si difficile. Je voudrais vous poser une question, qui est celle-ci. Dans quelle mesure la parole de Cébès, qui est célèbre dans Tête d'or, celle-ci, la parole n'est qu'un bruit et les livres ne sont que du papier, dans quelle mesure cette parole exprimait-elle, à l'époque où vous l'écriviez, le dégoût de la matière imprimée, le dégoût des livres, par exemple?
Oui. Il y a un sentiment, plutôt l'insuffisance de livres comparé à la nourriture essentielle dont j'avais besoin, qu'un mépris complètement radical. J'ai toujours été un grand lecteur, un dévoreur de papier imprimé, et je suis loin actuellement de ressentir ce mépris. Je sais au contraire combien je dois à l'étude et à la lecture. Seulement, j'ai le sentiment que tout être constitue une personnalité à part, une monade, comme dit Leibniz, n'est-ce pas, et que rien, absolument rien ne peut remplacer, et que même une influence extérieure, je ne dis pas constamment, mais à certains moments peut être positivement nuisible et vous égarer. Et il doit y avoir une espèce de sentiment farouche, d'intrépidité personnelle, qui doit guider le poète, enfin le poète en germe, et lui permettre de distinguer ce qui lui est bon, ce qui est lui mauvais, et de repousser avec une espèce d'horreur ce qui est délétère pour lui.
Eh bien, qu'est-ce qui était bénéfique et qu'est-ce qui était délétère dans vos lectures d'adolescents?
Eh bien, je peux dire d'abord que ça t'en bloque toute l'éducation littéraire que j'ai reçue au lycée. Ça, je me suis hérissé et j'ai rejeté en bloc à peu près tout ce bagage qu'on essayait de m'imposer. Quand je suis sorti du lycée, je suis sorti avec un bagage complètement négatif, c'est-à-dire que je rejetais violemment tout ce qu'on avait essayé de me mettre dans la tête. Et puis alors, quand je me suis livré à moi-même, je me suis d'abord jeté sur Shakespeare.
Pardonnez-moi de vous couper, mais je crois que nos auditeurs aimeraient bien savoir ce que vous avez rejeté avec tant de violence à votre sortie du lycée.
Permettez, je ne peux le dire qu'en complétant ce qui s'en suivit, parce que ce qu'on voulait m'imposer, je l'ai au contraire en grande partie accepté, et avec avidité et voracité plus tard, dès le moment où on n'a pas essayé de me l'imposer, où je me le suis administré à moi-même comme une nécessité organique et vitale que je pouvais assimiler.
Je m'excuse alors de vous avoir interrompu, pardonnez-moi.
Parce que je voulais justement vous expliquer ce processus de mes études qui ont suivi, je peux bien dire, ma conversion, parce que conversion et éducation morale et intellectuelle sont marché de pair pour moi entre ces années 86, 90 et 93, où je me suis constitué en entier, où je me formais somme toute ma personnalité. Eh bien, dans ces études préliminaires, ce qui a commencé pour moi, c'est Shakespeare. J'ai étudié de très près Shakespeare pendant un an et demi ou deux ans. Je l'ai lu et annoté de très près. J'en ai même plusieurs exemplaires qui ont disparu, je crois, dans le tremblement de terre de Tokyo, où une grande partie de mes livres ont disparu.
Vous le lisiez dans le texte à cette époque-là déjà ?
J'ai appris l'anglais dans Shakespeare, je peux dire. C'est avec le dictionnaire d'une main, une traduction de Shakespeare, que j'ai commencé à étudier l'anglais, avec une grande voracité et beaucoup de fruits. J'avais une admiration sans borne à ce moment pour Shakespeare, admiration que j'ai conservée en partie, et ça m'a été extrêmement utile et formatif. D'ailleurs, quand on voit ma première version de Tête d'or, on retrouve partout l'influence de Shakespeare, de sa stylistique, son répertoire d'images, son mouvement, ses procédés de composition. Tout ça est shakespearien, on le retrouve dans ce drame de Tête d'or. Alors, Shakespeare m'a amené au tragique grec. J'ai lu les tragiques grecs que j'admirais déjà dans les commentaires de Paul de Saint-Victor, que je lisais au lycée, qui est une de mes admirations aussi, une admiration passée. Et je me suis mis à lire Shakespeare dans la traduction de Le Comte de Lisle, que j'ai trouvé détestable.
Vous vouliez dire Eschyle, je crois.
Eschyle, oui. Alors, je me suis dit, c'est pas possible, Eschyle doit être autre chose. Et alors, je me suis mis à vouloir le lire dans le texte. Mais alors, pour le lire dans le texte, j'étais obligé de recommencer, somme toute, une grande partie de mes études du lycée. Mais néanmoins, je sentais que ça était indispensable parce que Eschyle me donnait la formation prosodique dont j'avais besoin. Le vers épique ou le vers lyrique, à mon avis, appartiennent à deux systèmes différents. On ne peut pas employer le vers épique ou le vers alexandrin au drame. C'est une erreur complète, à mon avis. Le vers dramatique par excellence ou le vers lyrique, c'est l'iambe. Tous les vers, tous les grands poètes dramatiques ont employé l'iambe, que ce soit les tragiques grecs, que ce soit Shakespeare, que ce soit les grands lyriques, Pindare, etc., tous ont pour principe l'iambe, c'est-à-dire la succession d'une brève et d'une longue. Tic-tac, 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 tic-tac. Ou alors l'anapèse, tic-tic-tac, tic-tic-tac, tic-tic-tac. L'alexandrin, au contraire, ou l'hexamètre, sont des éléments narratifs. Et les appliquer au drame, à mon avis, sont un non-sens, sauf alors pour des génies exceptionnels comme Racine, qui lui en a fait un emploi miraculeux. Je trouve Racine étant une des exceptions inouïes de l'art littéraire. Ça prouve que rien d'absolu ne peut exister, parce que même avec cet instrument que je considère comme mauvais pour le drame, Racine, qui est mon prédécesseur à l'Académie, comme vous savez, puisque j'occupe son fauteuil, est une Racine, on a fait un emploi étourdissant.
Je suppose que Racine était un de ceux que vous aviez rejeté à la sortie du lycée.
Complètement. Et je dois dire que j'étais très long à revenir à Racine. Je ne suis pas revenu de mon peu d'admiration pour Corneille, mais pour Racine, c'est tout différent. Et je crois que Racine ne peut être apprécié que par un homme d'un certain âge. Ce n'est pas pour les jeunes gens, les pièces de Racine qui ont une telle expérience de la vie et un tel art de la forme ne sont pas faits pour des esprits et pour des talents inexpérimentés. Il faut beaucoup d'expérience, il faut beaucoup de bouteilles, si je peux dire, pour les apprécier. Mais puisque j'en ai l'occasion, je dois dire que dans les trois grands drames de Racine, qui sont Britannicus, Phèdre et Athalie, dans aucune langue du monde, ni dans Shakespeare, ni dans les Grecs, ni nulle part, je ne trouve quelque chose d'équivalent. Je trouve que ce sont des chefs-d'œuvre extraordinaires. Mais des chefs-d'œuvre qui, pour moi, me sont étrangers. On peut admirer une chose en sentant que c'est complètement en dehors de votre sphère, de votre ambiance. j'admire chez Racine, mais comme quelque chose d'entièrement hors de moi et où je n'ai rien à chercher.
Mais Attali aussi.
Attali aussi. C'est une très grande œuvre, n'est-ce pas?
Oui, mais je voulais demander si Attali vous paraissait une œuvre si étrangère à votre nature,
oui,
à votre
oui.
tempérament.
Oui, oui. Je ne sens pas comme Racine, sauf peut-être dans ce chef-d'œuvre extraordinaire qui est Phèdre, mais néanmoins je suis capable de l'apprécier, comme je suis capable d'apprécier André Chénier, bien que je sois très loin de lui.
Vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez conservé à Shakespeare qu'une partie de votre première admiration.
Oui. C'est-à-dire que maintenant je vois très largement ses défauts, n'est-ce pas? Tandis que mon admiration pour Racine a augmenté, celle que j'ai pour Shakespeare a été plutôt en diminution.
Mais pourquoi?
D'abord, disons ce que je trouve de très beau dans Shakespeare, n'est-ce pas? Malgré tout, je le place au premier rang, au nombre des 4 ou 5 les plus grands écrivains qui existent. D'un certain côté, je le mets même au-dessus de Racine, bien que je ne sois pas sûr d'avoir raison. Eh bien, dans Shakespeare, il y a d'abord l'universalité de ses idées. C'est un monde entier qui figure chez lui. Et il y a cette violence de l'inspiration, ce mouvement dramatique, cette imagination à la fois familière et sublime, n'est-ce pas, les deux choses mélangées. Tout ça m'excitait au plus haut degré. Et peut-être à ce moment-là, même les œuvres que j'aime moins, comme les premiers drames historiques où est Roméo et Juliette, où règne un langage d'un mauvais goût effroyable qui ressemble beaucoup à du Galimatia ou à du Charabia, mais tout de même il y a une jeunesse, une violence d'inspiration, une intrépidité de sentiment qui m'exaltait au plus haut degré et qui continue d'ailleurs à m'exalter. Shakespeare est tout de même un très grand bonhomme.
Ces entretiens, le début des mémoires improvisées de Paul Claudel, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne France 3 Nationale en 1951.